Voici les deux textes liturgiques, l'épître de ce 23e dimanche après la Pentecôte, est tiré de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, soyez en cela mes imitateurs, et tenez les yeux fixés sur ceux qui marchent selon la règle que vous trouvez en nous, car il en est beaucoup dont je vous disais, dont je vous le dis, encore maintenant avec larmes, qu'ils marchent en ennemi de la croix du Christ, beaucoup dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre. Qui mettent leur gloire dans tout ce qui leur fera leur confusion et qui ne goûtent que la terre. Notre vie à nous a son objet dans les cieux d'où nous attendons encore notre Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, qui réformera le corps de notre abjection présente en le modelant sur le corps de sa gloire par la vertu même avec laquelle il aura le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Ainsi donc, mes frères, très chers et très désirés, ma joie et ma couronne, restez fermes dans le Seigneur, en suivant cette ligne de conduite, je prie Évodie et conjure Saint-Tiché d'avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur. Je vous demande à vous aussi, mon fidèle collaborateur, de les y aider, elles qui ont travaillé avec moi à l'Évangile, avec Clément et tous mes autres coopérateurs dont les noms sont au livre de vie. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint-Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, voici qu'un chef de synagogue se présenta et l'adora en disant « Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez imposer la main sur elle et elle vivra. » Et Jésus, se levant, se mit à le suivre avec ses disciples. Et voici qu'une femme, qui depuis 12 ans souffrait d'un flux de sang, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Que je touche seulement son manteau, je serai guérie. » Et Jésus s'étant retourné et la regardant, lui dit « Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a sauvée. » Et la femme fut guérie à partir de 7 heures. Lorsque Jésus parvint ensuite à la maison du chef et vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais lorsque la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, elle se leva et la renommée s'en répandit par tout le pays. Veuillez vous asseoir. Attention pour les messes cette semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, messe à 10h, jeudi, messe à 8h. Ensuite, vendredi et samedi, pas de messe parce que c'est ma visite à la petite chapelle d'Andorre. N'oubliez pas, mercredi, donc le 8e cours sur les actes du magistère à 19h, puis 20h, 19h, ici dans l'oratoire. Et le cours est placé sur Internet, en vidéo et en audio, vers entre 21h30 et 22h en général. Attention aussi pour les retraites. Donc les inscriptions arrivent, j'ai déjà 12 inscrits. Comme je peux prendre que 6 personnes par retraite, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, sinon il n'y aura plus de place. Je m'oblige à suivre évidemment l'ordre dans lequel je reçois les inscriptions. Donc il y a 6 retraites. L'année prochaine, à partir du mois d'avril, jusqu'au mois d'octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nous parle de 2 choses. La mort d'une part et d'une résurrection d'autre part. La mort a toujours représenté le péché, parce que le péché grave tue les âmes. Et la miséricorde, et je veux dire la résurrection, pardon, représente la miséricorde. Et c'est une chose qu'on a bien du mal à comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand lorsqu'il pardonne un péché grave que quand il ressuscite le fils de du chef de la synagogue. Ou quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, ou quand il ressuscite le frère de Sainte Marie-Madeleine. Arrivez à se mettre dans la tête que notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour un gros pécheur qu'un petit pécheur. Parce que le gros pécheur a plus besoin de la miséricorde du bon Dieu que le petit pécheur. Regardez, écoutez les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Dernière parole de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il demande à son Père, de pardonner. Pardonnez-leur, mon Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, beaucoup de Juifs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Rappelez-vous certaines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on n'aime pas citer dans la tradition. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Difficile à comprendre. Dieu est grand d'abord par sa miséricorde. Une chose qu'on a énormément de mal à comprendre, à tel point par exemple que dans le texte de l'Exultet, qui est la grande prière que l'Église nous fait chanter pendant la vigile pascale, autour du cierge pascal qui vient d'être allumé, eh bien on parle de « O Felix culpa »,« O faute bienheureuse ». Donc on a l'impression parfois que, j'ai eu souvent cette impression avec certains fidèles, que dès qu'on parle de miséricorde, les gens nous regardent de travers en disant, pas un peu moderniste vous? Comme si les modernistes ne parlaient que de miséricorde et que les catholiques de tradition ne devraient parler que de justice. En fait, on ne peut pas séparer les choses. Attention, la miséricorde ne veut pas dire pas de justice. La miséricorde tempère la justice. Et la justice équilibre la miséricorde. La miséricorde sans justice devient évidemment de la faiblesse. Et la justice sans miséricorde devient de la cruauté, même pour Dieu. Donc on le voit très bien dans ce magnifique exemple, aujourd'hui la résurrection de la fille du chef de la synagogue, petite fille de 12 ans qui était morte. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde. La question est la suivante. Comment s'applique la miséricorde du bon Dieu pour nous? Et bien, cette miséricorde, mes bien chers frères, s'applique par la croix. C'est par la croix, par le sacrifice de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ applique sa miséricorde. Et saint Paul, c'est pas pour rien justement qu'en parallèle de cet évangile, il y a l'épître de saint Paul aux Philippiens. Qu'est-ce que nous dit saint Paul? Il y a 2000 ans. Il nous dit « Beaucoup agissent en ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Beaucoup agissent en ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Être ennemi de la croix, ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule et même chose. Et c'est parce que nous agissons en ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devenons incapables d'utiliser la miséricorde du bon Dieu. Il y a un lien entre les deux. Si je ne suis pas capable d'utiliser la miséricorde, si j'ai un cœur qui devient de plus en plus sec, c'est parce qu'il me manque justement cet amour de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ prouve sa miséricorde aux hommes de façon extraordinaire, précisément par sa mort sur la croix. Et on voit très bien comment la miséricorde du bon Dieu s'applique dans tout ce qu'il fait. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie de miséricorde. Il le dit expressément, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. Donc encore une fois, se mettre dans la tête que s'il y avait deux pécheurs devant notre Seigneur Jésus-Christ, un petit pécheur et un grand pécheur, notre Seigneur Jésus-Christ aime plus le grand pécheur que le petit pécheur parce que le grand pécheur a plus besoin de sa miséricorde. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une crise terrible au niveau des hommes d'église, ça veut dire qu'il faut arrêter de parler de la miséricorde. Les saints étaient tous pleins de miséricorde, avec force au niveau de la doctrine, bien sûr, et pleins de miséricorde. S'abaisser jusqu'au ras des pâquerettes s'il faut pour essayer d'élever une âme vers le bon Dieu. Ah, si une âme refuse de s'élever vers le bon Dieu, c'est autre chose. Oui, mais il faut équilibrer ces deux choses. Équilibrer ces deux choses, ne pas oublier encore une fois que notre Seigneur Jésus-Christ nous présente d'abord son cœur percé au pied de la croix, sur la croix le vendredi saint, c'est ça la miséricorde. Et on le voit très bien, c'est l'enseignement de tous les pères de l'Église par les différentes résurrections. Vous savez que dans l'Évangile, il y a trois résurrections qui sont rapportées. Il y en a sans le tue plus, puisque saint Jean nous prévient qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les Évangiles. Et s'il fallait expliquer tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait pendant sa vie publique de 3 ans, le monde ne pourrait pas contenir les livres nécessaires pour être écrits, qui devraient être écrits pour expliquer tout ce qu'a fait notre Seigneur. Bon, bien sûr, c'est une métaphore, mais il faut comprendre. Eh bien, dans chaque cas, on voit la griffe de la mort qui s'enfonce. Premier cas, c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est cette petite fille de 12 ans qui est encore sur son lit mortuaire. Et notre Seigneur Jésus-Christ applique sa miséricorde pour sortir de la mort, des griffes de la mort, cet enfant qui vient de mourir. Et les pères de l'Église expliquent que cette première mort, avec la fillette qui est encore sur son lit mortuaire, représente le péché mortel par pensée, qui tue l'âme. Qui dit péché mortel dit mort. C'est une mort spirituelle. Le péché mortel par pensée tue l'âme. J'accepte une mauvaise pensée complètement dans mon âme, même s'il n'y a pas eu d'action, il y a faute grave. J'ai perdu la grâce sanctifiante, mon âme est morte. Puis, avec la deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et les pères expliquent que cette fois-ci, c'est déjà un peu plus grave, parce que non seulement la personne est morte, mais elle est déjà dans le cercueil, elle est portée en terre, elle est portée au cimetière. Et les pères de l'Église expliquent que cette fois-ci, c'est le péché mortel par action. Il y a rarement des péchés mortels par action qui ne sont pas précédés de péchés mortels par pensée, évidemment. D'abord la pensée, puis l'action. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ applique aussi sa miséricorde dans des cas comme ça pour bien montrer qu'il est plus puissant que le péché. Enfin, troisième résurrection, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, Saint-Lazare, premier évêque de Marseille. Lui, non seulement il est mort, non seulement il a été porté en terre, mais son corps est déjà en putréfaction, il sent déjà, puisqu'il est dans le tombeau depuis 4 ans, depuis 4 jours. Et encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur cette mort. Les pères de l'Église expliquent là, c'est plus que le péché mortel par action, plus que le péché mortel par pensée, c'est le vice qui s'est introduit dans l'âme. Mais même quand le vice s'est introduit dans l'âme, Dieu peut exercer sa miséricorde, sortir cette âme du péché. Il va ressusciter Lazare. Évidemment, il ne faut pas détruire la miséricorde. Il ne faut pas casser la miséricorde. La miséricorde ne peut s'appliquer que si on regrette, bien sûr. Si quelqu'un qui ne regrette pas son péché ne peut pas être absous, c'est absolument impossible. Donc il faut regretter son péché et à ce moment-là, la miséricorde peut s'appliquer. Il y a un certain nombre de conditions pour que la miséricorde du bon Dieu puisse s'appliquer. La miséricorde se présente à notre porte et il faut ouvrir la porte. Comment est-ce que j'ouvre la porte de la miséricorde? On ouvre la porte de la miséricorde d'abord par le regret, puis par l'accusation et la réparation. Les trois conditions d'une bonne confession. Contrition, accusation, réparation. Donc attention, mes bien chers frères, ne tombons pas, parce que ça c'est, je crois, une grande, grande tentation, cette tentation de dureté. Ces cœurs que Saint François de Sales avait une belle expression, il appelait ça des cœurs de glace. Il désignait les jansénistes à l'époque, mais c'est parfaitement valable pour nous aussi, le cœur de glace. Il n'y a rien de pire qu'un cœur sans miséricorde. Le prêtre, évidemment, doit être rempli de cette miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'il donne l'absolution tout le temps. Il doit exiger, évidemment, le minimum. Le minimum, c'est le regret de ses péchés. Le minimum, c'est que l'accusation des péchés ait été faite correctement et que la réparation soit au moins commencée. Vous voyez, une fois qu'on a compris ces choses-là, on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Et comment s'exerce la miséricorde? La miséricorde du bon Dieu, elle s'exerce d'abord par la confession. La confession, c'est le lieu de la miséricorde, peut-être encore plus que la Sainte Communion, que la Sainte Messe. Parce que la première étape pour arriver au pied de l'autel, c'est la confession dans bien des cas. Donc savoir utiliser cette confession, nous arrivons à la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche après la Pentecôte, dans 15 jours, dernier dimanche du mois de novembre, c'est déjà le premier dimanche de l'Avent, commence l'année nouvelle. Eh bien, pensez à ces choses-là, peut-être qu'il serait bon pour chacun d'entre nous de penser, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un conseil qu'on donne souvent en fin d'année liturgique, pour la nouvelle année qui arrive, qui commence le premier dimanche de l'Avent, fin du mois de novembre, de préparer peut-être une bonne confession générale de toute l'année. Faire un peu le point. Savoir faire le point pour savoir si j'ai rempli mes fonctions, est-ce que j'ai ouvert la porte à la miséricorde. Il n'y a rien de pire pour une âme que de fermer la porte à la miséricorde. C'est le péché de Judas. Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte à la miséricorde du monde. Ah, monsieur l'abbé, c'est que le péché de Judas est impardonnable. C'est pas vrai. péché de Judas aussi était pardonnable. Si Judas avait fait ce qu'a fait Saint-Pierre, s'il était précipité aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Pardonnez-moi, je suis un pauvre pécheur, mon Dieu l'aurait pardonné, il y aurait un saint Judas aujourd'hui. » Alors qu'au contraire, il est en enfer. Quel est le péché de Judas? D'avoir limité la miséricorde de Dieu. Rien de pire comme péché. Judas a dit, a pensé, « Mon péché est trop grand, il n'est plus pardonnable. Dieu n'est pas assez puissant pour pardonner. » Péché. C'est ça le péché de Judas. Strictement parlant, le péché de Saint-Pierre, le péché de Judas, c'est le même péché. Hein. Dans les deux cas, il y a une apostasie. Même trois fois chez Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a cru en la miséricorde de Dieu. L'évangile nous dit, quand notre Seigneur Jésus-Christ qui quitte la maison de Caïphe pour aller à la maison d'Hérode ou de Pilate, au cours de la Passion, lorsqu'il quitte, il passe à l'extérieur, il voit Judas, il voit Saint-Pierre qui vient le trahir trois fois, il le regarda, c'est tout. Et l'évangile rajoute immédiatement, Saint-Pierre sortit et pleura amèrement, et à la contrition. Et certain que notre Seigneur déjà lui donnait l'absolution du haut du ciel, au moment de la Passion. Il aurait voulu faire la même chose avec Judas, mais encore une fois, s'il... Je refuse d'ouvrir la porte de mon âme à la miséricorde. Le bon Dieu n'exerce pas sa miséricorde. Il ne va pas rentrer dans mon âme comme un voleur avec un pied de biche pour ouvrir la porte par force. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Et on voit très bien cette montée constante de nos âmes vers le bon Dieu. Et ce chiffre, justement, ce chiffre 3, 3 résurrections, on va le retrouver très très souvent dans l'Évangile parce que c'est le chiffre de la totalité, à commencer par la Sainte Trinité. On voit toute une série de symboles qui expliquent très bien les pères. Ils expliquent ce symbole du chiffre 3 pour montrer la montée d'une âme vers le bon Dieu qui commence à ouvrir la porte et notre Seigneur qui peut appliquer sa miséricorde, il est venu pour ça. Par exemple, les trois morts pour commencer. La mort physique, la mort séparation entre corps et âme. Puis la mort spirituelle, bien plus grave. Le passage d'état de grâce à un état de péché mortel. Et enfin, la plus terrible, la mort éternelle. La chute en enfer. Quand il n'est plus possible d'exercer la miséricorde. Le seul lieu où notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas exercer sa miséricorde, c'est l'enfer. L'enfer, c'est le lieu qui est inatteignable par la miséricorde du bon Dieu. Parce que pour pouvoir exercer sa miséricorde, il faut que l'âme s'ouvre. Une âme en enfer ne peut plus s'ouvrir, ce n'est pas possible. Parce que pour changer de vie, il faut l'exercice de notre liberté, il faut la grâce du bon Dieu, il faut de temps, en enfer, il n'y a plus de temps. Vous voyez ? Deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le passage de la vie purgative, à la vie illuminative, à la vie unitive. On monte vers le bon Dieu. Et puis dans la vie religieuse, c'est la même chose. On commence d'abord par le postulat, le noviciat, puis les vœux saints, puis les vœux définitifs. On monte vers le bon Dieu. Pour cela aussi, encore une fois, qu'il y a trois résurrections. Donc nous devons, mes bien chers frères, utiliser impérativement cette miséricorde infinie du bon Dieu. Et c'est pour ça que l'Évangile, encore une fois, est merveilleusement choisi immédiatement. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà sur la route de la maison du chef de la synagogue, eh bien, il y a cette femme qui s'approche de notre Seigneur, l'hémorroïs. Elle s'approche de notre Seigneur et elle fait un acte de foi extraordinaire. Elle ne va même pas oser lui demander de la guérir. Elle se dit, si j'arrive à toucher la frange de son manteau, simplement par la frange de son manteau, je serai guéri. Quel acte de foi! Elles font la foule alors que tout le monde presse notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde touche notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas forcément guéris. Et elle va être guérie parce qu'elle touche la frange du manteau avec foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit cette phrase magnifique, « Ayez confiance ma fille, votre foi vous a sauvée. » Pas de miséricorde sans foi, pas de miséricorde sans espérance. La miséricorde c'est quoi? C'est l'application de la charité. Mais pour que la charité puisse s'exercer, il faut encore la foi et l'espérance. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est capital à comprendre. La miséricorde, le plus gros reproche que je fais à Vatican II, à l'église de Vatican II, c'est d'avoir détruit la miséricorde. Et comment ont-ils fait son titre pris pour détruire la miséricorde? Ils ont coupé la miséricorde de l'injustice. La miséricorde est coupée de la justice, donc devient de la faiblesse. Il faut pardonner à tous les pécheurs. On entend ça tout le temps de la part des modernistes. Il faut pardonner aux pécheurs. Il faut pardonner aux pécheurs repentants, oui. Pas aux pécheurs non repentants. À notre Seigneur Jésus qui est plein de bonté, pardonne même si on ne regrette pas. Non, c'est faux. L'exemple classique que je donne tout le temps, j'ai déjà donné plusieurs fois. Une maman qui se rend compte que son petit garçon de 10 ans lui vole une pièce tous les jours dans son portefeuille. Elle s'en rend compte. Elle fait une remarque à l'enfant. Et si l'enfant ne change pas, il continue de voler la pièce d'un euro tous les matins dans le portefeuille de sa mère. Est-ce que la maman doit pardonner? Surtout pas! Si elle pardonne dans ce cas-là, c'est quoi? Ça vient de la faiblesse et de l'injustice formelle parce qu'elle va pousser son enfant à devenir un voleur. Et l'enfant va prendre l'habitude de vol et c'est la mère qui sera responsable. Pareil pour notre Seigneur. Si notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde, il aide le pécheur à changer. Mais tant que le pécheur ne veut pas ouvrir la porte de son âme, eh bien, il peut rien faire. On entend ces réactions tout le temps, même parfois dans les milieux de la tradition, et bien sûr dans les milieux de gens qui n'ont pas une foi très solide, on entend ça tout le temps. Il faut pardonner, monsieur l'abbé. J'ai un fils qui vit en concubinage, mais le bon Dieu l'aime tel qu'il est. Attendez. Comment voulez-vous que le bon Dieu exerce sa miséricorde sur quelqu'un qui vit en concubinage, alors que saint Paul dit expressément, les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux. Si le concubinaire change de vie, si le concubinaire rectifie sa situation, la porte de la miséricorde s'ouvre immédiatement. Mais il faut le changement. Pas de changement de vie, pas d'application de la miséricorde du bon Dieu pour chacun d'entre nous. Et quand des parents, par une fausse appréciation de la miséricorde, disent à leur enfant qui vit en concubinage, « Bon, ben, je t'aime parce que tu es mon fils ou tu es ma fille, je t'aime de tout mon cœur, donc ça ne change rien, c'est pareil. » La mère devient l'assassin de l'âme de son enfant parce qu'elle va pousser l'enfant à vivre dans le péché. Comment voulez-vous qu'un enfant qui vit dans le péché puisse sauver son âme? Et la mère va tomber dans le péché elle aussi par faiblesse. Ça, c'est plus de la miséricorde, c'est la cruauté. Vous voyez? Donc, ce sont des choses très importantes. Il faut méditer les obstacles à la miséricorde. Et ça, c'est le texte de saint Paul. Quel est l'obstacle à la miséricorde? L'obstacle à la miséricorde, mes bien chers frères, ce sont les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Le pire, évidemment, l'orgueil. Je me fais mon propre Dieu. Et l'orgueil, justement, va empêcher l'exercice de la miséricorde. C'est la phrase de saint Paul qui nous dit expressément que beaucoup se comporte comme ennemi de la croix du Christ. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ennemi de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tous les gens qui passent à côté du calvaire, qui refusent de monter au calvaire pour se mettre au pied de la croix. Ils détournent les yeux, ils ne veulent pas voir notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est l'orgueil. Puis la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté. Ce nous dit saint Paul, qui font de leur ventre un Dieu. Qui font de leur ventre Dieu lui-même. Phrase très forte. Tous les péchés d'impureté. Péché d'impureté, en ça, justement, terrible, c'est qu'il coupe la miséricorde du bon Dieu. On vit dans l'impureté, et du coup, la miséricorde du bon Dieu ne peut plus s'appliquer. Le bon Dieu voudrait appliquer sa miséricorde. Et là, encore une fois, on le voit, combien de fois j'ai entendu des prêtres modernes nous dire, mais monsieur l'abbé, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas le droit de prêcher comme ça, parce que le jour où on meurt, notre Seigneur Jésus-Christ ouvre tout grand les portes de son Sacré-Cœur, et nous dit, voilà, est-ce que tu veux venir vivre avec moi? Il n'y a pas de problème, tout le monde va demander pardon, tout le monde va aller au ciel. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ demande d'abord l'acte de foi, l'acte d'espérance, et demande la fuite des occasions de péché. Donc si je garde dans mon cœur une occasion prochaine volontaire de péché mortel, je ne peux pas utiliser la miséricorde du bon Dieu. Et la troisième concupiscence qui empêche complètement l'apparition de la miséricorde, l'usage de la miséricorde, c'est aussi une phrase de saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui aux Philippiens. Il parle de ceux qui n'ont de goût que pour les choses de la terre. C'est terrible ça. Qu'est-ce que fait l'Église catholique? L'Église catholique oblige les fidèles à monter leur regard vers le bon Dieu. C'est l'image de la cathédrale gothique avec sa croisée d'ogives qui pousse les yeux vers le ciel. Vous rentrez dans une cathédrale gothique du Moyen-Âge, tout de suite, On a l'esprit qui est attiré vers le haut, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que fait le monde moderne? Le monde moderne, au contraire, mes bien chers frères, va nous empêcher de lever les yeux pour pousser les gens au désespoir et pousser les gens à regarder au contraire la boue du péché. C'est pour ça cette phrase de Saint Paul est très belle. Il parle de ceux qui n'ont de goût que pour les choses de la terre, des gens qui se vautrent dans le péché, qui se vautrent dans la mondanité, dans les choses de ce monde, justement, qui se coupent complètement de la miséricorde du bon Dieu. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. S'il y a une qui avait compris ces choses-là, c'est bien elle. C'est pour cela qu'au pied de la croix, le bon Dieu a placé la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, sa mère. Donc demandons, mon Dieu, d'ouvrir notre cœur, mes bien chers frères. Je me rends compte que mon cœur est en train de devenir un cœur de glace, que mon intelligence devient coupée de la réalité parce que je ne veux pas changer, je ne veux pas me convertir. Qu'est-ce qu'on fait? On se précipite au pied de la croix, mes bien chers frères. On va chercher notre Sainte Vierge Marie, on demande à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à monter vers le ciel, c'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un qui n'aime pas la Très Sainte Vierge Marie est incapable d'exercer la miséricorde, parce que c'est la Très Sainte Vierge Marie qui a la clé du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Nous demandons, mes bien chers frères, cette grâce. Demandons cette grâce. Vous voyez? Et tous ceux qui entendent ça constamment dans l'Église moderne, il faut passer par notre Seigneur, pas besoin de passer par la Sainte Vierge. Quels imbéciles! Ils ne se rendent même pas compte qu'ils demandent à la personne d'essayer d'ouvrir une porte qui est fermée à clé, en refusant d'utiliser la clé qui seule peut ouvrir la porte. La clé de la miséricorde, c'est notre Sainte Vierge Marie qui est là, parce que le bon Dieu a voulu la donner à sa mère. Fils, voici votre mère. Mère, voici votre fils. A-t-il dit encore au pied de la croix. Oh, mes bien chers frères, utilisons, en cette fin d'année liturgique, utilisons la dévotion à notre Sainte Vierge Marie pour exercer cette miséricorde. Ne nous laissons pas, si vous voulez, détruire soit d'un côté, soit de l'autre. Nous ne laissons pas détruire par cet esprit de glace, encore une fois, cette hérésie de glace dont parlait saint François de Sales, ce janséniste, cet esprit janséniste qui supprime la miséricorde et qui ne parle plus que de la justice. Et en même temps, évitons l'hérésie contraire, à savoir de supprimer complètement la justice et de parler que de la miséricorde, qui devient une espèce de bonasserie en disant qu'il n'y a plus besoin de se convertir pour aller vers le bon Dieu. Et ces deux hérésies, quelle est la pire? Je pense que c'est la première. Je pense que c'est la première. C'est pour ça que l'hérésie qui a fait certainement le plus de mal, une des hérésies qui a fait le plus de mal, c'est l'hérésie jansénistes. Vous voyez, qui coupe de la miséricorde. Le modernisme aussi a fait du mal, c'est évident. Mais il est plus facile, humainement parlant, avec la grâce du bon Dieu, de faire revenir à la foi catholique un moderniste qui a perdu la foi, que de faire revenir à la foi catholique un janséniste qui se campe dans son orgueil. Dans son orgueil. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces à la Très Sainte Vierge Marie. Elle peut tout, puisqu'elle est mère de Dieu, et que le bon Dieu a placé la porte, la clé de la porte du ciel entre les mains de sa mère. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.